Alors du coup, voilà, présentation un petit peu du collectif Nightshot. Nightshot, c'est quoi? C'est un collectif qui s'est fondé il y a 4-5 ans autour d'une d'acteurs qui se sont tous rencontrés dans le cadre du JTRC au Théâtre Olympia, à l'époque dirigé par Gilles Bouillon. Donc voilà, on était tous JTRC, on avait fait une pièce Kids à l'époque et on s'est très bien entendu sur le plateau. Donc on s'est dit, quitte à bien s'entendre au plateau, autant continuer à bien s'entendre au plateau tous ensemble. Donc voilà, le JTRC s'est terminé et on a fondé le collectif Nightshot sur cette volonté-là. Et du coup, assez rapidement, notre langage, on va dire, enfin en tout cas notre mode de travail, s'est articulé autour de l'adaptation de textes non théâtraux, justement. Où on a commencé avec une adaptation d'un roman de Bernard-Marie Coltès. Alors Bernard-Marie Coltès, c'est un dramaturge, homme de théâtre français qui a écrit énormément de pièces. Il a écrit un seul roman et on s'en est emparé et on a fait un spectacle plutôt que d'aller puiser dans ses pièces. Et à partir de là, en fait, l'identité de Nightshot a évolué au fur et à mesure des années.
C'était...
Rien à rajouter, c'est absolument parfait.
Ça va,
j'ai bien parlé. T'étais au top.
Merci beaucoup.
C'était la nuit des traqués, c'est ça le...
Absolument. Ouais.
Donc ça, c'est la première pièce, ou en tout cas le premier spectacle fondateur, ouais. Et la première chose que vous avez fait ensemble.
C'est ça.
Exactement. Ouais.
Et du coup, voilà, c'était un roman vraiment monstrueux, parce qu'en gros, on retrouvait un petit peu toutes les thématiques possibles qui allaient traverser toute l'œuvre de Coltès dans son théâtre. Et alors là, c'est comme... C'était dans ce livre-là. Ça, comme Tarantino, un petit peu, je sais plus quel bouquin, enfin, il avait écrit un espèce de scénario où, en fait, il y avait Pulp Fiction, il y avait Killing Zoe, il y avait... True Romance et compagnie. Voilà, bon, c'était un parallèle un petit peu bête, mais en tout cas, Coltès, ce bouquin-là, c'était vraiment ça. Donc on a fait ça une première fois, dans la salle de répétition du Centre Dramatique, devant assez peu de personnes. Ça s'est bien passé, on était contents de ce qu'on avait fait, et après coup, on a voulu, la saison d'après, se lancer dans quelque chose d'autre, etc. Et du coup, à l'époque, le porteur de projet de Coltès, c'était Clément Bertani, qui fait partie du collectif. Et dès la deuxième année, moi, je suis arrivé vers le collectif en leur faisant « Bon, écoutez, moi, j'ai un auteur qui me taraude, enfin, ça m'interroge, j'aimerais bien qu'on le porte au plateau. » C'était Charles Bukowski.
D'accord.
Et du coup, je leur ai intimé l'ordre d'acheter des bouquins de Bukowski. Je leur ai dit « Ouais, maintenant vous allez lire, etc. » Et tout le monde a un petit peu lu, et selon les sensibilités des uns et des autres, ils ont adhéré à cette idée-là. Seul problème, au moment où on s'apprête à partir dans notre première résidence de création, il y a James Franco, l'acteur américain, qui voulait faire un film sur la vie de Charles Bukowski. Et à cette époque-là, en fait, les deux ayants droit de Bukowski, c'est-à-dire sa femme
et sa fille, mais
d'un premier mariage,
de la femme,
étaient en train de se foutre un petit peu sur la gueule pour les questions de droit et ont bloqué absolument tous les droits d'adaptation de l'œuvre de Bukowski. Donc nous, on est arrivés, on n'avait plus le temps de se retourner, on a fait bon.
Et vous aviez déjà acheté les livres ?
On avait acheté les livres et on avait créé le spectacle, puisqu'on avait attendu.
Ah,
mais
oui.
Après, mais on l'avait déjà créé, on l'avait présenté devant un public qui était venu voir la sortie de résidence au Volapük, où on avait créé le spectacle. Et puis on s'est dit, on va le continuer, on va l'enrichir. Mais en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'en termes de production, on n'aurait pas les droits, en tout cas pas sur cette saison.
Ah, oui.
Du coup, on est reparti sur autre chose, sur d'autres projets individuellement et collectivement. Quoi. Mais effectivement, ça, c'est nos deux premiers travaux. Le Coltès et le Bukowski, et puis après on a commencé à faire d'autres menus.
Et même, oui, c'est vrai que le Bukowski a été un petit peu à l'origine, on va dire, d'une série de déconvenues par rapport aux droits d'auteur qu'on n'arrivait jamais à toucher.
Après, on voulait monter un roman qui s'appelle Le Dernier Testament de Ben Zion Avraham de James Frey, qui était un truc génial sur une espèce de le retour du Christ en 2000 à New York en 2015. Vu par 12 personnes, donc qui seraient les nouveaux apôtres, comme ça, il y avait, je sais pas quoi, le mec qui l'avait embauché, il a un accident, c'est le chirurgien qui le sauve, je sais pas. Et c'était absolument génial ce truc-là, et bingo, on fait les démarches pour monter la production et obtenir les droits, et on se rend compte que c'est Mélanie Laurent qui a obtenu les droits pour en faire une pièce de théâtre qu'elle a créée d'ailleurs l'année dernière, et qu'elle a bloqué les droits exclusivement pendant 5 ans, donc pareil, retour. Et on avait énormément bossé en plus, on avait quand même bien bossé. On n'était pas peu mécontents des idées qu'on avait glanées et ce qu'on voulait en faire était commencé à vraiment à se préciser. Et à partir de là, on en a eu marre. On a commencé à se poser des questions sur notre fonctionnement collectif, parce que investir beaucoup de choses et être déçu derrière. Et puis à partir de là, on s'est dit, écoutez, merde. Moi, je leur ai proposé, on fait un spectacle là-dessus. Voilà, on fait un spectacle sur un collectif qui ne va pas bien et qui est au bord de l'implosion. Parce que et à partir de là, on a commencé à envisager le projet Nous Allons Vivre.
Parce qu'en fait, c'est aussi ces déconvenues qui ont amené ce spectacle que vous allez jouer le 10 octobre.
Absolument.
Complètement. Oui, en fait,
on n'était pas vraiment arrivé à un point d'implosion au sein du collectif, mais on commençait à voir que si on ne faisait pas attention et si on ne travaillait pas d'une autre manière, d'une manière plus carrée, enfin, en tout cas, si on progressait pas ou si on passait pas une marche, c'était des choses qui pourraient absolument nous arriver à terme ou dans quelques années, quoi. Parce qu'en fait, on était assez jeunes, on s'est rencontrés. Parce qu'avant, ce qu'a oublié de dire Edouard, c'est que certains du collectif, avant de se rencontrer chez Gilles Bouillon au Centre Dramatique de Tours, on avait fait la même école d'art dramatique à Montpellier avant, et on était vraiment une bande très soudée. Et on avait déjà commencé à vouloir travailler ensemble à la sortie et à faire des projets en commun, parce qu'on avait du mal à se quitter, même en dehors de la vie civile. On s'est dit, quitte à vouloir passer du temps ensemble, travaillons ensemble. Et du coup, on s'est dit, bon, et on parle de ça. Moi, après tout, c'est un truc qui est proche de nous, qu'on connaît, qu'on pourrait voir arriver, qu'on a déjà vu chez d'autres collectifs ou d'autres groupes, n'importe quoi. Et on s'est dit, l'implosion d'un groupe et d'une utopie de jeunesse. Et à partir de là, on s'est dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On le situe dans quel endroit, dans quel contexte et tout? Alors, tout a été évoqué. Il y avait même certains qui disent, mais en fait, c'est des mecs qui ont monté un syndicat étudiant quand ils avaient 18 ans, et en fait, on les retrouve à 30, machin, et ça va plus du tout, quoi. Et on voulait parler de ça, quoi, que quand à 18 ans, quand on a une énergie commune et qu'on regarde dans la même direction, tout est incroyable et le monde est à nous et il est ouvert. Et qu'à 35 ans, voilà, les choses ont évolué parce que les relations personnelles et le travail les uns sur les autres usent et qu'on regarde plus forcément dans la même direction et qu'en plus il y a des histoires de cœur internes, problèmes, des vieilles rancœurs, des jalousies qui peuvent noyauter. Et ça, on trouvait que c'était quelque chose qui pouvait se retrouver dans beaucoup d'autres situations. Et arrivé à ce moment-là, l'idée, entre autres, de la radio, quoi, parce que ça trouvait.
Alors bon, vous êtes deux aujourd'hui sur le plateau, dans le studio. Vous êtes combien en tout? Et est-ce que vous pouvez parler brièvement un peu des autres qui sont absents, ce qu'ils font majoritairement? Parce qu'il faut aussi dire que vous avez des horizons et vous êtes complémentaires peut-être sur certains sujets, sur la formation, sur les métiers aussi que vous pratiquez.
Oui. Bah, en fait, le collectif est composé de 7 personnes, 3 filles, 4 garçons. Donc, Michael Tessier, Clément Bertani, Pauline Bertani, Charlotte Barbier et Laure Coignard, qui ne sont pas là aujourd'hui, si vous
et
entendez.
Et une administratrice, Alison
Rabusso. Voilà. Mais enfin, oui, bah, du coup, qui n'est pas au plateau avec nous, mais bon, enfin voilà,
on va dire que c'est vraiment dû d'ailleurs.
On lui proposera.
Les problèmes d'agenda.
On lui en veut pas.
Voilà. Des bisous, Alison. Et donc, on est cette personne autour de ce projet-là. On va dire que, après, comment ça s'organise, effectivement.
Ça dépend un peu des projets, des envies et de. On est tous acteurs de formation, c'est important de le dire. On a tous aussi des carrières en dehors de Night Shot. On travaille tous pour d'autres metteurs en scène sur d'autres projets. Voilà, donc c'est ça aussi. Le fait de se réunir, c'est très important, puisque quand on a la chance de pouvoir caler des agendas, on est en pleine problématique de ça en ce moment, pour pouvoir tous se retrouver, on saute dessus, quoi. Mais c'est sûr que nous, là, du coup, on travaille à droite, à gauche. Et là, en ce moment, par exemple, on prépare notre prochain spectacle. Mais les fonctions ne sont pas absolument réparties. Edouard a pris le lead de la compagnie ces dernières années, puisqu'il avait un goût pour ça et qu'il y avait des indisponibilités des autres individus. Là, on essaie encore une fois de faire muter la forme pour qu'il puisse être plus libre, par exemple, pour mener à bien avec un acolyte, Antoine Le Simple, le prochain projet. Et du coup, chacun trouve sa place. Par exemple, moi, je fais de la prod en ce moment. Voilà. Mais c'est selon la disponibilité, selon l'envie, voilà, et c'est l'occasion qui fait le larron. Ouais. Et c'est pas attitré et défini, même si commence à se dégager effectivement des aptitudes ou des envies selon tel ou tel, euh, tel ou tel, voilà, de la logistique ou de la production, des rendez-vous, gérer plutôt, voilà, à différents. De toute façon, il y a du travail à tous les endroits si on veut s'investir.
Que ce soit dans l'écriture, etc. On a tous participé à l'écriture de Nous allons vivre, même si bon, il y en avait qui ont plus.
Qualité
d'écriture plus acerbe que d'autres, donc voilà, auquel on s'est attaché, mais tout le monde a produit du texte sur Nous allons vivre. Après, moi je suis un peu la caution, on va dire, technique, parce que j'ai une carrière de technicien à côté de ma carrière d'acteur.
D'accord. T'as un goût de ça, mon vieux.
Oui, et puis j'aime bien,
technicien,
en fait.
Technicien, quoi comme technique?
Technicien.
N'importe laquelle.
En fait,
montrez-lui un truc pendant une semaine et il saura le faire mieux que vous, dis-moi.
Peut-être pas jusque là. Non, mais par exemple, là, dans Nous allons vivre, vu qu'on a transposé un plateau de radio au plateau, justement, moi, je suis le régisseur de cette radio-là, donc je m'occupe de toutes les parties son. Et j'avais déjà fait des tournées un peu en France, une fois en Guyane, un pote m'a appelé, il a fait « Mon régisseur me lâche, est-ce que tu veux venir faire ma régie ?» Donc bon, bah, je monte les projos, je les règle à peu près, je règle les micros quand il y a besoin. Je suis un peu touche à tout, quoi. J'aime bien. J'aime bien les j'aime bien.
Il faut, hein.
Ouais, on n'a pas tous ses aptitudes, par exemple. Moi,
oui, c'est ça.
On confie rarement ce genre de mission, et a raison, je pense.
Ouais, non, voilà. Lui, on lui jette des cailloux quand il essaie de toucher un truc.
C'est lui, un petit canard, c'est ça?
Non, parce que je suis pas le seul, d'ailleurs. Enfin, je suis peut-être le pire, mais en tout cas, il y en a d'autres qui veulent pas beaucoup mieux que moi, sur la partie, on va dire, technologique.
Voilà. On ne balancera pas de nom.
C'est vrai que la complémentarité aussi, elle vient sur ces questions techniques et puis sur ces, sur tout ce qu'il y a autour de la pièce en elle-même. Même. J'aimerais revenir sur un point, ça peut vous paraître bête ou pas d'ailleurs.
Certainement pas.
Bon. Le nom Nightshot.
Et oui. Arrête pas de nous demander ça.
Eh ben voilà.
Je te laisse répondre parce
qu'il y a une insulte d'un journaliste qui se demandait, on voulait l'inviter à voir notre travail et il fait ouais non mais déjà ça sent très mauvais cette histoire de Nightshot. Qu'est-ce que c'est que cet anglicisme et tout ça. Le premier le premier spectacle qu'on a fait donc sur Bernard Marie Coltès, donc qui a un univers vraiment c'est la ville, c'est dark, c'est les bas-fonds, c'est les milieux interlopes,
c'est nocturne,
c'est voilà. Et du coup, nous, pour monter ça, on avait utilisé de la vidéo. En tout cas, on s'entraînait, on faisait des essais de courts-métrages ou d'images qu'on filmait la nuit sur l'île Ocar, sur le pont de fil, voilà. Et pour utiliser, pour pouvoir filmer de nuit, il y a un bouton et un réglage qui s'appelle sur les caméras la fonction Night Shot. Et du coup, comme c'était en plein à un moment donné où on n'avait pas de nom, mais du coup, il fallait à un moment donné présenter le spectacle pour le diffuser ou en tout cas en parler autour de nous et se structurer, qu'on soit reconnu en tant que compagnie ou collectif. Du coup, on s'est dit, le collectif Night Shot, on était en plein en plus trip. Du coup, toutes nos influences étaient américaines, new-yorkaises. On regarde parce que vraiment l'univers qu'on avait créé sur le plateau était très influencé de tout ça. Et voilà, c'est du Night Shot, c'est très bien.
C'est une évolution parce qu'à l'origine même, on avait pensé à One Shot.
Bien sûr.
Parce que vraiment, dans notre.
En tout cas, il y avait Shot à chaque fois.
Ça s'est dit, ouais, exactement. Donc, on a fait Night Shot.
Parce que One Shot, à l'origine, c'est vrai que quand on se lançait dans des répétitions, c'était vraiment, allez, on est dans tel lieu. Donc avec ses capacités de la salle, elle est faite de telle façon, etc.
On
va créer que pour ce lieu-là. Et donc c'est un one shot. C'était un petit peu, on se disait, au début je pense que
on avait souvent, alors pas sur le Coltès, mais on avait souvent une représentation, c'est-à-dire qu'on nous disait, tel jour, vous avez 7 jours là ce lieu, 10 jours ce lieu, et telle date, donc vous vous présentez quelque chose, et le lendemain vous pliez les gaules. Et du coup c'était on créait tout le spectacle en fonction de la géographie, de l'esthétisme, du lieu, et du coup on faisait des one shots. Voilà pourquoi Night Shot, et puis du coup on en parlait d'ailleurs tout à l'heure dans la voiture, parce qu'on est en rendez-vous ailleurs. Et pour revenir justement, on posait la question Nightshot, et moi c'est un nom que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire que en dehors du fait qu'il soit vraiment c'est un anglicisme et qu'il soit un peu branleur comme ça, je trouve qu'il représentait bien ce qu'on était à l'époque où on l'a fait, et à chaque fois que je le vois ce nom, des fois on pourrait être tenté de se dire tiens, si on passait doucement à un autre nom qui soit moins, parce qu'on a aussi évolué en fait, c'est un peu le discours de Nous allons vivre, et non, moi je trouve qu'il faut le garder parce qu'en fait ça nous rappelle qui on est, le côté même petits cons qu'on était à l'époque, et ça parce que comme aujourd'hui les enjeux augmentent, que voilà, et que on peut aussi être de se prendre de plus en plus au sérieux et revoir le non headshot, ça me rappelle
ça me rappelle vraiment le moment où on sortait du boulot d'un côté, et on prenait nos caméras, on s'habillait comme des glands et on allait courir dans les rues pour faire des images, quoi.
Ouais.
Donc c'est un peu ça, ouais.
Donc on regarde parce que c'est nous.
Et vous lui avez répondu quoi, ce journaliste?
On lui a pas encore répondu.
On prépare.
Alors je sais pas si on va lui répondre, parce que en fait j'ai rien contre lui, qu'il ait des réticences quant à notre
question peut se poser, d'un nom anglais comme ça.
Ah non, mais de toute façon toutes les questions peuvent se poser. On est absolument tout à fait disposé à y répondre. Aucun problème. Donc je sais pas si on lui répondra, mais j'aimerais le rencontrer d'ailleurs prochainement, parce que du coup. Pour
se défendre.
Non, pas forcément. Pour rentrer, parce que c'est assez marrant, quoi, c'est de voir.
Non, parce que de toute façon, je sais que, enfin voilà, quoi qu'on fasse, de toute façon, c'est clivant. On n'aura jamais 100% d'adhésion ou 100% de désamour. Bon, si
oui,
ça
puis
peut
en plus, il dit sans doute des choses absolument sensées.
Oui, mais je trouve qu'il a raison dans certains points qu'il aborde.
Il n'y a aucun souci.
Mais voilà, c'est juste, essayer justement de communiquer.
Ça nous a fait rire, parce qu'on nous a fait la remarque récemment.
Voilà, sur le nom de Nightshot.
Est-ce qu'on peut parler de philosophie? Est-ce que ça vous dit quelque chose, la philosophie pour
l'amour
vous...
de la sagesse.
Voilà.
Et entre autres, pour vous, qu'est-ce que signifie au fond le terme collectif? Parce que c'est quelque chose qu'on entend quand même assez souvent.
Ah, bien sûr. Mais ça aussi, le journaliste est...
Ça aussi.
Ouais, mais ça, c'est vrai que... Et puis, je viens d'une formation journalistique, du coup, j'ai un peu les réflexes encore.
Bravo.
Non, mais collectif, qu'est-ce que ça insinue? Parce que, ok, il y a plusieurs personnes qui se groupent, qui s'assemblent, mais qu'est-ce qu'au fond, ça... Voilà, quelles sont les choses pour que ça se mette en place? Qu'est-ce que ça veut dire, collectif, au fond? Pour vous, en tout cas.
À l'endroit de Nightshot, je pense que il y avait un truc déjà par rapport à l'organisation même d'une compagnie. Vu que en fait, quand on est parti dans l'aventure de Nightshot, il y avait des porteurs de projets, mais qui pouvaient changer à tous les one shot ou à tous les projets. Donc on s'est dit bon, si on fait une compagnie, ça sous-entend qu'il y a un metteur en scène, il y a une organisation, on va dire, assez pyramidale. Alors que dans le truc de collectif, ce qui nous intéressait, c'est de se dire que les cartes peuvent être rebattues en fait à chaque fois, et qu'il y a quand même cette force du collectif qui fait front et qui fait le dos rond quand la tempête arrive. Mais
ça a ce côté peut-être un peu moins organisé, mais aussi très soudé. Collectif.
Oui, ouais.
Pour moi, collectif, c'est qu'on est ensemble, quoi. Et du coup, qu'on discute et qu'on continue à maintenir un dialogue ensemble. Après, peu importe qui porte le projet, alors c'est facile de dire ça, mais pour moi, le collectif, c'était vraiment éviter la solitude, je pense. Parce que quand on monte une compagnie, il y a un porteur de projet qui se farde tout. Alors, il peut être épaulé par des administrateurs et par des équipes techniques et par des acteurs, mais là, c'était on y va ensemble. Personnellement, je préfère.
C'est moins cloisonné, quoi.
C'est moins cloisonné, je préfère être avec eux que tout seul pour montrer mes trucs. Et puis, il y a une émulation en plus, quoi. Mais en fait, collectif, surtout qu'on en parle beaucoup dans le milieu artistique, mais ça veut pas tout et rien dire. Parce que, est-ce qu'on parle de collectif en termes d'horizontalité et que chacun a son mot à dire de la même manière? De toute façon, c'est pas toujours aussi cadré que ça, en tout cas chez nous, quoi, parce que déjà c'est pas toujours les mêmes personnes qui participent d'un projet sur l'autre, enfin même si quand même il y a un noyau dur évidemment, que encore comme disait Edouard, les porteurs de projets sont redistribués selon chaque projet justement. Donc non, moi c'est vraiment être ensemble, quoi.
Ouais. Non, et même je crois que le mot en lui-même le porte un petit peu, quoi. C'est collecter un peu les talents de chacun et
c'est ma clique.
Ouais, un truc comme ça. C'est bon, même clique. La compagnie aussi, tu pourrais dire, on est en compagnie déjà.
Mais bien sûr, mais on est déjà en compagnie. On est en compagie, mais de toute façon, on est une loi de l'ISO 901. Enfin,
Oui.
Après, c'est la terminologie, quoi. C'est quelque chose qu'on aimait bien. En fait, tout le monde aimait bien.
C'était
en 2010, on aimait bien. On avait 7-8 ans de moins et ça nous paraissait très bien à l'époque. Et du coup, on se voit pas pourquoi on changerait.
Non.
Très belle réponse philosophique, en tout cas. Ça mériterait presque un 20 sur 20.
C'est gentil.
en terminale, bac de philosophie de terminale, ça remonte à un petit moment. Pour vous et moi aussi, d'ailleurs.
Ça remonte. Oui. 2000.
Et en plus, c'était pas une bonne note pour moi.
2000.
Ah bon?
Non, j'ai fait un contresens.
Putain, il y a 17 ans.
Ça, c'est le risque, c'est en philo.
Vous donnez la parole.
C'est gentil.
On va parler maintenant plus précisément de ce qui vous amène aussi à la base ici, c'est le spectacle Nous allons vivre, que vous allez faire, que vous allez jouer le
mardi
10 octobre à 20h30, salle Télème.
Ouais, absolument.
C'est quoi ce spectacle?
C'est de la balle.
C'est de la balle. c'est de la balle.
On est crevé. Hein,
autour de la radio. Hein. C'est ça? Autour de la radio.
Ouais, absolument.
Et alors, évidemment, ça intéresse tous les auditeurs de Radio Campus. Comment on peut faire un spectacle à base de radio? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un spectacle autour de la radio?
Bah, en fait, l'histoire, le synopsis, vraiment, c'est vraiment, un groupe d'individus qui, au sortir du lycée, ou à fin de son lycée, a commencé à développer un projet de radio sur le modèle des radios libertaires, voilà, Carbone 14 ou des choses comme ça, les radios associatives, la vôtre, je sais pas, Béton à Tours, par exemple. Et voilà, c'est éclaté.
C'est pas la concurrence.
Non, vous êtes une radio libre. Évidemment. Et on les retrouve pendant le spectacle, en fait, 10 ans après, pour l'anniversaire des 10 ans, et les choses ont vraiment bien évolué entre les désirs de carrière de certains, les volontés, les risques de stagnation d'autres, les jalousies des uns envers les autres, tous les non-dits, tous les choses vers lesquelles ça n'a pas été. Les histoires amoureuses, les contrariétés, et en fait ça amène l'explosion du projet de base et le règlement de compte des personnes que ça concerne. Et du coup ça se passe au sein d'une radio qui s'appelle Tétanos, qu'on a appelé Tétanos 76, et le dispositif du coup c'est
il y a un vrai studio,
un studio de radio en plein milieu du plateau qui est voilà. Animé par des acteurs en live sur toute la temporalité quasiment de la pièce. Et le spectateur suit ce qui se passe dans le studio quand on veut qu'il suive ce qui se passe dans le studio. Et parfois les acteurs, pour régler leur compte, soit ils le font à l'antenne, soit ils sortent du studio pour régler leur compte en dehors.
Alors, ce qui veut dire qu'il y a un plateau, un vrai plateau de radio, et donc les acteurs sont à l'intérieur, ils parlent, et dehors, il y a des enceintes,
À travers. Il y a un système de diffusion où vraiment, en fait, tout le début du spectacle, on arrive en pleine fiction radiophonique de Tétanos, quoi. C'est les aventures d'Estelle et Didier. Dis juste que c'est Estelle et Didier, je ne dis pas de la nature de ça. Et d'autant plus, je crois, nous aussi, ce qui nous amusait quelque part avec ce dispositif-là, c'est que parfois, sur les tournées qu'on a pu faire sur d'autres spectacles, effectivement, il y a ce qui se passe au plateau, que le public doit voir et recevoir. Et alors, derrière le rideau de fond de scène, il y a ce qui se passe en coulisses.
Eh oui.
Et franchement, des fois.
Et les coulisses de la radio, c'est pas beau à voir. Hein.
Eh ben, non, mais alors voilà,
c'est parfois plus intéressant ce qui se passe en coulisses que ce qui se passe
au plateau. Et du coup, en fait, on s'était toujours raconté ça. On s'était dit, non, mais t'imagines si on arrivait à faire une pièce sur les coulisses et tout, etc. Machin. Et avec ce dispositif-là, bon, ça nous a permis de mettre un petit peu en abîme plutôt que voilà, une compagnie de théâtre. On se serait dit, oh là là, ces acteurs, ces nombrilistes, ils sont en train de parler de théâtre dans le théâtre, enfin bon, etc. Machin. Non, on a pris une radio parce qu'en plus, le médium nous intéressait.
Ça aussi, on le trouvait très cool. On l'avait beaucoup écouté quand on était jeune, nous-mêmes.
Ah voilà,
on était consommateurs.
On voyait du coup l'univers dans lequel il pouvait s'inscrire, puisqu'on on le fantasmait un peu. Nous, on trouve que c'était un média absolument cool. Et en fait, tout convergeait vers ça, quoi. Le propos libertaire qui se délite, le média et ses possibilités scéniques et la
diffusion de la. Ouais, quand on a créé le spectacle, on voulait vraiment squatter, selon la ville où on jouait, on voulait demander soit une autorisation temporaire d'émettre au CSA. Pour vraiment émettre ce qui se passe dans le studio.
D'accord.
Soit demander à une radio locale, selon la localité où on allait jouer, si on pouvait squatter leurs ondes pendant la période du spectacle, pendant une heure et demie, pour que les gens dans leur radio puissent entendre ça, faire « Mais attends, c'est pas Alouette FM ?» c'était ça vraiment le projet de base.
On tendait vers ça et ça a été beaucoup plus compliqué à mettre en place que ça. Ça demandait vraiment en amont de penser la chose beaucoup plus de manière beaucoup plus carrée que qu'on l'a fait, mais c'était ça le projet, c'est qu'ils puissent et se voir et s'entendre, et du coup on a trouvé un système intermédiaire qui permet d'avoir les deux axes, les deux, pas temporalité, mais les deux espaces, là, un espace dans
le... Il y a deux spectacles qui se jouent en simultané, vraiment ce qui se passe dans la radio et vraiment ce qui se passe à l'extérieur dès que les animateurs se foutent sur la gueule ou règlent leur compte à dire mais t'as vraiment été un chien avec moi tout à l'heure à l'antenne et tout, etc.
Que tout est timé, parce que ça veut dire que les scènes qui sont jouées devant le truc radio ne peuvent pas excéder quelque chose, une certaine durée, puisque les gens qui sont en train de chroniquer, à un moment donné, ils vont arriver au bout de leur chronique et c'est à ce moment-là que la personne devra quitter.
C'est
très chorégraphié,
parce qu'il faut qu'il se passe toujours quelque chose.
Pour que ça ait l'air complètement à l'arrache, c'est justement hyper rigoureux dans la création.
Oui, exactement. Ouais, exactement. C'est ça a été,
parce qu'on a l'impression que c'est un peu à l'arrache, parce que c'est une radio en fait, qui a ce ton-là, un petit peu punk.
Oui, et le nom de la radio, vous avez dit tout à l'heure Tétano 7.6, mais en fait, c'est Tétano 7.6, la radio qui s'inocule.
Oui, bien sûr.
Qui s'inocule, ça fait un peu drogue, quoi. C'est comme une drogue.
Absolument. Ouais. Mais c'est que vraiment, on était encore parti sur assez influencé par des choses qu'on avait lues ou vues sur Carbon 14, et on trouvait que Tétanos, ça faisait vraiment radio libertaire, associative.
Et petit rappel, peut-être pour les auditeurs, ceux qui connaissent pas Carbon 14, en fait, c'était une radio dans les années 80 qui est limite.
Qui va 10 fois plus loin que ce qu'on propose.
Oui,
parce
qui
que
va
c'est
beaucoup plus loin. C'est les débuts de la fesse, et en fait, c'est les premiers coïts en direct à la radio.
C'est bien que t'en parles parce que j'ai regardé le teaser de Nous allons vivre et on aperçoit 2-3 paires de fesses quand même dans le teaser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors pour avoir l'explication, il faudra voir le spectacle, parce que ces paires de fesses et les fesses qu'on voit dans le spectacle sont liées à une actualité brûlante de la radio dans Tétanos 7.6. Il y a un thème qui va se dégager.
D'accord.
Que j'ai pas envie de
spoiler. Une dépêche qui tombe et qui vient chambouler toute la grille de programmation.
Voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas un symbole et un peu de philosophie aussi dans votre spectacle, puisque déjà le titre c'est Nous allons vivre. J'ai vu aussi que dans le teaser, dans la présentation du spectacle, il y a cette phrase vivre ou se laisser mourir avec un point d'interrogation. C'est la fin d'un groupe, la mort aussi d'un idéal commun, comme vous le dites. Pourquoi insérer une dimension philosophique comme ça dans un spectacle autour de la radio?
Alors, si je peux répondre,
c'est une question.
Déjà, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti pour construire les relations de personnages et les personnages en eux-mêmes. On est parti de Oncle Vania de Tchekhov, qu'on connaissait bien, qu'on aimait bien comme pièce, mais bon, qu'on ne se voyait pas monter en l'état. Par contre,
elle a été écrite au 19e siècle. Elle garde des qualités incroyables, mais en fait, dans sa contextualisation, c'était pas ça.
Et par contre, la manière dont évoluent les personnages entre eux et comment créer nous l'histoire de cette radio et des gens qui y vivent et qui y travaillent. On s'est servi de ces canevas-là et du canevas des personnages et qu'on a retransposé et à l'intérieur desquels on a développé, on a écrit, on a grossi des choses. Donc on a viré en fait toute la langue de Tchekhov et on a gardé les rapports entre les gens. Enfin, on a essayé, en tout cas, ça a été une bonne base pour travailler. Et ça finit cette pièce par tout un monologue de parce que le domaine familial est vendu et tout ça. Et ça finit par tout un monologue où le personnage de Sonia dit à son oncle qui a tout perdu et nous allons vivre. Et ce qui était absolument essentiel pour nous, c'était de pas du tout tomber dans un constat d'échec.
Dans le pathos, parce que
de quoi qu'il arrive, on voulait que les personnages, à l'issue de la représentation et de ce qui arrive pendant la représentation, puissent se dire
avoir un avenir.
Et que, par exemple, et c'était important, on a beaucoup discuté entre nous que une aventure collective, de jeunesse, sa fin, c'est pas forcément la fin du monde non plus, et que les choses sont cycliques et qu'elles tournent et qu'il y a toujours un avenir derrière. Et
tout évolue.
Exactement, et c'est peut-être d'ailleurs pour aller vers du mieux et vers en tout cas autre chose.
Mais alors, du coup, à quel genre de public s'adresse la pièce? Est-ce qu'il y a un public cible ou c'est vraiment quelque chose qui se regarde bien aussi en famille, plutôt jeune, plutôt...
Alors, en famille, peut-être pas, parce que quand même, on a... Dans la langue, ça reste cru, justement, comme on s'est inspiré de Carbon 14 et de choses comme ça. En fait, on ne sait pas du tout
qui se parlent comme on se parlerait, comme ça, on a fait attention quand même à ce qu'on disait, mais... Après ça s'adresse vraiment à un public très large, parce que de par justement le propos qui peut être repérable par absolument n'importe quel type d'individu le média qui est la radio, qui est quelque chose de très accessible, on a fait le pareil que tout le monde avait plus ou moins écouté la radio quand il était jeune. ça rend la chose... Nous, on l'a voulu la plus large possible. C'était même pas une question de démagogie, c'est qu'on on s'était dit, un sujet là, sur des... Ça peut... Il s'adresse pas à un public précis, quoi. Et puis, on était assez contents aussi de pouvoir toucher les gens de notre génération, ont peut-être pris moins l'habitude d'aller au théâtre, à part certaines exceptions notables, mais voilà, on voulait aussi que... Et par cette forme-là, on voulait que ça soit très accessible, voilà, le spectacle théâtral. Parce qu'on fait du théâtre d'aujourd'hui, on est des gens d'aujourd'hui avec...
C'est une critique envers
personne, mais c'est que, voilà, en tout cas, on voulait une forme de mimétisme par rapport aux personnes qui nous viennent nous voir.
On le rappelle donc aux auditeurs, le spectacle c'est le 10 octobre à 20h30, salle Télème. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Peut-être consulter votre site internet ou votre page Facebook, le collectif Nightshot. Ouais. Page Facebook, j'imagine, en tapant.
Oui, en tapant collectif Nightshot, on tombe là-dessus.
C'est facile aujourd'hui internet, avec Internet.
Si vous voulez aller chercher des infos, si vous voulez voir des photos du spectacle, des anciens spectacles, tout est là.
On va quand même. Le teaser, effectivement, et on va rappeler le titre, hein, évidemment. Ouais. Nous allons vivre donc une pièce autour de la radio, cet sombre univers un peu spécial.
Ouais.